Il n'était pas trop tard. Beautrelet put encore l'attraper. « Allons !» dit Beautrelet en se frottant les mains. « Je n'ai passé qu'une heure à Cherbourg, mais elle fut bien employée. » Pas un instant, il n'eut l'idée d'accuser Charlotte de mensonge. Faible, désemparée, capable des pires trahisons, ces petites natures obéissent également à des élans de sincérité. Et Beautrelet avait vu, dans ses yeux effrayés, la honte du mal qu'elle avait fait, et la joie de le réparer en partie. Il ne doutait donc point que Châteauroux fût cette autre ville à laquelle Lupin avait fait allusion, et où ses complices devaient lui téléphoner. Dès son arrivée à Paris, Beautrelet prit toutes les précautions nécessaires pour n'être pas suivi. Il sentait que l'heure était grave. Il marchait sur la bonne route qui le conduisait vers son père. Une imprudence pouvait tout gâter. Il entra chez un de ses camarades de lycée et en sortit une heure après méconnaissable. C'était un Anglais d'une trentaine d'années, habillé d'un complet marron à grands carreaux, culotte courte, bas de laine, casquette de voyage, la figure colorée et un petit collier de barbe rousse. Il enfourcha une bicyclette à laquelle était accroché tout un attirail de peintres et fila vers la gare d'Austerlitz. Le soir, il couchait à Issoudun. Le lendemain, dès l'aube, il sautait en machine. À 7 heures, il se présentait au bureau de poste de Châteauroux et demandait la communication avec Paris. Obligé d'attendre, il liait conversation avec l'employé et apprenait que l'avant-veille, à pareille heure, un individu, en costume d'automobiliste, avait également demandé la communication avec Paris. La preuve était faite. Il n'attendit pas davantage. L'après-midi, il savait par des témoignages irrécusables qu'une limousine, suivant la route de Tours, avait traversé le bourg de Buzançais, puis la ville de Châteauroux, et s'était arrêtée au-delà de la ville, sur la lisière de la forêt. Vers 10 heures, un cabriolet, conduit par un individu, avait stationné auprès de la limousine, puis s'était éloigné vers le sud, par la vallée de la Bouzanne. À ce moment, une autre personne se trouvait aux côtés du conducteur. Quant à l'automobile, prenant le chemin opposé, elle s'était dirigée vers le nord, vers Issoudun. Isidore découvrit aisément le propriétaire du cabriolet. Mais ce propriétaire ne put rien dire. Il avait loué sa voiture et son cheval à un individu qui les avait ramenés lui-même le lendemain. Enfin, le soir même, Isidore constatait que l'automobile n'avait fait que traverser Issoudun, continuant sa route vers Orléans, c'est-à-dire vers Paris. De tout cela, il résultait de la façon la plus absolue que le père Beautrelet se trouvait aux environs. Sinon, comment admettre que des gens fissent près de 500 kilomètres à travers la France pour venir téléphoner à Châteauroux et remonter ensuite à angle aigu sur le chemin de Paris? Cette formidable randonnée avait un but précis. Transporter le père Beautrelet à l'endroit qui lui était assigné. « Et cet endroit est à portée de ma main !» se disait Isidore en frissonnant d'espoir. « À 10 lieues, à 15 lieues d'ici, mon père attend que je le secoure. Il est là, il respire le même air que moi. » Tout de suite, il se mit en campagne. Prenant une carte d'état-major, il la divisa en petits carrés qu'il visitait tour à tour, entrant dans les fermes, faisant causer les paysans, se rendant auprès des instituteurs, des maires, des curés, bavardant avec les femmes. Il lui semblait qu'il allait sans retard toucher au but, et ses rêves s'amplifiant, ce n'est plus son père qu'il espérait délivrer, mais tous ceux que Lupin tenait captifs. Raymond de Saint-Véran, Ganimard, Herlock Sholmès peut-être, et d'autres, beaucoup d'autres. Et en arrivant jusqu'à eux, il arriverait en même temps jusqu'au cœur même de la forteresse de Lupin, dans sa tanière, dans la retraite impénétrable où il entassait les trésors qu'il avait volés à l'univers. Mais après 15 jours de recherches infructueuses, son enthousiasme finit par décliner, et très vite, il perdit confiance. Le succès tardant à se dessiner, du jour au lendemain, presque, il le jugea impossible. Et bien qu'il continuât à poursuivre son plan d'investigation, il eût éprouvé une véritable surprise si ses efforts eussent abouti à la moindre découverte. Des jours encore s'écoulèrent, monotones et découragés. Il sut par les journaux que le comte de Gesvres et sa fille avaient quitté Embrumésie et s'étaient installés aux environs de Nice. Il sut aussi l'élargissement du sieur Arlington, dont l'innocence éclata, conformément aux indications d'Arsène Lupin. Il changea son quartier général, s'établissant 2 jours à La Châtre, 2 jours à Argenton. Même résultat. À ce moment, il fut prêt d'abandonner la partie. Évidemment, le cabriolet qui avait emmené son père n'avait dû fournir qu'une étape, à laquelle une autre étape fournie par une autre voiture avait succédé. Et son père était loin. Il songea au départ. Or, un lundi matin, il aperçut, sur l'enveloppe d'une lettre non affranchie qu'on lui renvoyait de Paris, il aperçut une écriture qui le bouleversa. Son émotion fut telle durant quelques minutes qu'il n'osait ouvrir par peur d'une déception. Sa main tremblait. Était-ce possible? N'y avait-il pas là un piège que lui tendait son infernal ennemi? D'un coup, il décacheta. C'était bien une lettre de son père, écrite par son père lui-même. L'écriture présentait toutes les particularités, tous les tics de l'écriture qu'il connaissait si bien. Il lut
« Ces mots te parviendront-ils, mon cher fils? Je n'ose le croire. Toute la nuit de l'enlèvement, nous avons voyagé en automobile, puis le matin en voiture. Je n'ai rien pu voir. J'avais un bandeau sur les yeux. Le château où l'on me détient doit être en jugé par sa construction et par la végétation du parc au centre de la France. La chambre que j'occupe est au second étage, une chambre à 2 fenêtres, dont l'une presque bouchée par un rideau de glycine. L'après-midi, je suis libre à certaines heures d'aller et venir dans ce parc, mais sous une surveillance qui ne se relâche pas. À tout hasard, je t'écris cette lettre et je l'attache à une pierre. Peut-être un jour pourrais-je la jeter par-dessus les murs, et quelque paysan la ramassera-t-il. Ne t'inquiète pas, on me traite avec beaucoup d'égards. Ton vieux père qui t'aime bien et qui est triste de penser aux soucis qu'il te donne. Beautrelet.
Aussitôt, Isidore regarda les timbres de la poste. Il portait Cusion dans l'Indre. L'Indre, ce département qu'il s'acharnait à fouiller depuis des semaines. Il consulta un petit guide de poche qui ne le quittait pas. Cusion, canton d'Aiguzon. Là aussi, il avait passé. Par prudence, il rejeta sa personnalité d'anglais, qui commençait à être connue dans le pays, se déguisa en ouvrier et fila sur Cusion, village peu important, où il lui fut facile de découvrir l'expéditeur de la lettre. Tout de suite, d'ailleurs, la chance le servit.
« Une lettre jetée à la poste mercredi dernier !»
s'écria le maire, brave bourgeois, auquel il se confia et qui se mit à sa disposition.
« Écoutez, je crois que je peux vous fournir une indication précieuse. Samedi matin, un vieux rémouleur qui fait toutes les foires du département, le père Charel, que j'ai croisé au bout du village, m'a demandé « Monsieur le maire, une lettre qui n'a pas de timbre, ça part tout de même. Dame, et ça arrive à destination. Parbleu, seulement il y a un supplément de taxes à payer, voilà tout. »
« Et il habite, le père Charel ?»«
Il habite là-bas, tout seul, sur le coteau, la masure après le cimetière. Voulez-vous que je vous accompagne ?»
C'était une masure isolée, au milieu d'un verger qu'entourait de hauts arbres. Quand ils pénétrèrent, 3 pies s'envolaient de la niche même où le chien de garde était attaché. Et le chien n'aboya pas et ne bougea pas à leur approche. Très étonné, Beautrelet s'avança. La bête était couchée sur le flanc, les pattes raidies, morte. En hâte, ils coururent vers la maison. La porte était ouverte. ils entrèrent. Au fond d'une pièce humide et basse, sur une mauvaise paillasse jetée à même le sol, un homme gisait, tout habillé.
« Le père Charel !»
s'écria le maire.
« Est-ce qu'il est mort, lui aussi ?»
Les mains du bonhomme étaient froides, son visage d'une pâleur effrayante, mais le cœur battait encore, d'un rythme faible et lent, et il ne semblait avoir aucune blessure. Ils essayèrent de le ranimer, et comme il n'y parvenait pas, Beautrelet se mit en quête d'un médecin. Le médecin ne réussit pas davantage. Le bonhomme ne paraissait pas souffrir. On eût dit qu'il dormait simplement, mais d'un sommeil artificiel, comme si on l'avait endormi par hypnose ou à l'aide d'un narcotique. Au milieu de la nuit suivante, cependant, Isidore, qui le veillait, remarqua que sa respiration devenait plus forte et que tout son être avait l'air de se dégager des liens invisibles qui le paralysaient. À l'aube, il se réveilla et reprit ses fonctions normales, mangea, but et se remua. Mais de toute la journée, il ne put répondre aux questions du jeune homme, le cerveau comme engourdi encore par une inexplicable torpeur. Le lendemain, il demanda à Beautrelet
« Qu'est-ce que vous faites là, vous ?»
C'était la première fois qu'il s'étonnait de la présence d'un étranger auprès de lui. Peu à peu, de la sorte, il retrouva toute sa connaissance. Il parla. Il fit des projets. Mais quand Beautrelet l'interrogea sur les événements qui avaient précédé son sommeil, il sembla ne pas comprendre. Et réellement, Beautrelet sentit qu'il ne comprenait pas. Il avait perdu le souvenir de ce qui s'était passé depuis le vendredi précédent. C'était comme un gouffre subi dans la coulée ordinaire de sa vie. Il racontait sa matinée et son après-midi du vendredi, les marchés conclus à la foire, le repas qu'il avait pris à l'auberge. Puis plus rien. Il croyait se réveiller au lendemain de ce jour. Ce fut horrible pour Beautrelet. La vérité était là, dans ses yeux qui avaient vu les murs du parc derrière lesquels son père l'attendait, dans ses mains qui avaient ramassé la lettre, dans ce cerveau confus qui avait enregistré le lieu de cette scène, le décor, le petit coin du monde où se jouait le drame. Et de ses mains, de ses yeux, de ce cerveau, il ne pouvait tirer le plus faible écho de cette vérité si proche. Oh, cet obstacle impalpable et formidable auquel se heurtaient ses efforts, cet obstacle fait de silence et d'oubli, comme il portait bien la marque de Lupin. Lui seul avait pu, informé sans doute qu'un signal avait été tenté par le père Beautrelet, lui seul avait pu frapper de mort partielle celui-là seul dont le témoignage pouvait le gêner. Non point que Beautrelet se sentît découvert et qu'il pensa que Lupin, au courant de son attaque sournoise et sachant qu'une lettre lui était parvenue, se fût défendu contre lui personnellement. Mais combien s'était montré de prévoyance et de véritable intelligence que de supprimer l'accusation possible de ce passant. Personne ne savait plus maintenant qu'il y avait, entre les murs d'un parc, un prisonnier qui demandait du secours. Personne ? Si, Beautrelet. Le père Charel ne pouvait parler. Soit. Mais on pouvait connaître du moins la foire où le bonhomme s'était rendu et la route logique qu'il avait prise pour en revenir. Et le long de cette route, peut-être, enfin, serait-il possible de trouver... Isidore, qui d'ailleurs n'avait fréquenté la masure du père Charel qu'avec les plus grandes précautions et de façon à ne pas donner l'éveil, Isidore décida de n'y point retourner. S'étant renseigné, il apprit que le vendredi, c'était jour de marché à Fresselines, gros bourg situé à quelques lieues, où l'on pouvait se rendre soit par la grande route, assez sinueuse, soit par des raccourcis. Le vendredi, il choisit pour y aller la grande route et n'aperçut rien qui attira son attention. Aucune enceinte de hauts murs, aucune silhouette de vieux château. Il déjeuna dans une auberge de Fresselines et se disposait à partir quand il vit arriver le père Charel qui traversait la place en poussant sa petite voiture de rémouleur Il le suivit aussitôt, de très loin. Le bonhomme fit deux interminables stations pendant lesquelles il repassa des douzaines de couteaux. Puis enfin, il s'en alla par un chemin tout différent qui se dirigeait vers Crozon et le bourg des Gusons. Beautrelet s'engagea derrière lui sur cette route. Mais il n'avait pas marché pendant 5 minutes qu'il eut l'impression de n'être pas seul à suivre le bonhomme. Un individu cheminait entre eux, qui s'arrêtait et repartait en même temps que le père Charel, sans prendre d'ailleurs beaucoup de soin pour n'être pas vu. « On le surveille, » pensa Beautrelet. « Peut-être veut-on savoir s'il s'arrête devant les murs. » Son cœur battit. L'événement approchait. Tous trois, les uns derrière les autres, ils montaient et descendaient les pentes raides du pays, et ils arrivèrent à Crozon. Là, le père Charel fit une halte d'une heure. Puis il descendit vers la rivière et traversa le pont. Mais il se passa alors un fait qui surprit Beautrelet. L'individu ne franchit pas la rivière. Il regarda le bonhomme s'éloigner, et quand il l'eut perdu de vue, il s'engagea dans un sentier qui le conduisit en plein champ. Que faire ? Beautrelet hésita quelques secondes, puis brusquement se décida. Il se mit à la poursuite de l'individu. Il aura constaté que le père Charel a passé tout droit. Il est tranquille et il s'en va. Où ? Au château ? Il touchait au but. Il le sentait à une sorte d'allégresse douloureuse qui le soulevait. L'homme pénétra dans un bois obscur qui dominait la rivière, puis apparut de nouveau en pleine clarté à l'horizon du sentier. Quand Beautrelet, à son tour, sortit du bois, il fut très surpris de ne plus apercevoir l'individu. Il le cherchait des yeux, quand soudain, il étouffa un cri et d'un bond en arrière, regagna la ligne des arbres qu'il venait de quitter. À sa droite, il avait vu un rempart de hautes murailles que flanquaient à distance égale des contreforts massifs. C'était là. C'était là. Ces murs emprisonnaient son père. Il avait trouvé le lieu secret où Lupin gardait ses victimes. Il n'osa plus s'écarter de l'abri que lui offraient les feuillages épais du bois. Lentement, presque à plat ventre, il appuya vers la droite et parvint ainsi au sommet d'un monticule qui atteignait le faîte des arbres voisins. Les murailles étaient plus élevées encore. Cependant, il discerna le toit du château qu'elle saignait, un vieux toit Louis XIII que surmontaient des clochetons très fins disposés en corbeille autour d'une flèche plus aiguë et plus haute. Pour ce jour-là, Beautrelet n'en fit pas davantage. Il avait besoin de réfléchir et de préparer son plan d'attaque, sans rien laisser au hasard. Maître de Lupin, c'était à lui maintenant de choisir l'heure et le mode du combat. Il s'en alla. Près du pont, il croisa deux paysannes qui portaient des seaux remplis de lait. Il leur demanda « Comment s'appelle le château qui est là-bas, derrière les arbres ?»«
Et ça, monsieur, c'est le château de l'Aiguille !»
Il avait jeté sa question sans y attacher d'importance. La réponse le bouleversa.
« Le château de l'Aiguille ? Mais où sommes-nous ici ? Dans le département de l'Indre ?»«
Ma foi, non ! L'Indre, c'est de l'autre côté de la rivière ! Par ici, c'est la Creuse !»
Isidore eut un éblouissement. « Le château de l'Aiguille ! Le département de la Creuse ! L'Aiguille Creuse ! La clé même du document ! La victoire assurée, définitive, totale !» Sans un mot de plus, il tourna le dos aux femmes et s'en alla en titubant comme un homme ivre.